Bonjour et bienvenue à tous pour filer au rendez-vous de la rentrée et heureux de vous présenter à nouveau sur l'antenne de Fréquence Protestante son émission mensuelle sur le cinéma Chant contre Chant. Émission qui sera bien sûr consacrée au film de la rentrée et qui sera présentée par moi-même, Jean Lot, et j'aurai à côté de moi Marie-Jeanne Campana. Bonjour Marie-Jeanne.
Bonjour à tous.
Françoise Lot, bonjour Françoise.
Bonjour.
Et Jean-Michel Duquer, bonjour Jean-Michel.
Bonjour Jean.
Alors, rentrée en fanfare, le mot est peut-être excessif, mais cette année, la rentrée est quand même assez brillante. Si dans les semaines qui ont précédé celle-ci, on a pu voir Rester vertical de Alain Guiraudy, et surtout le film qui avait créé le buzz à Cannes, Tony Erdmann de Marraine A2, le mois de septembre n'est pas en reste, avec entre autres les trois films que nous vous présentons aujourd'hui dans la première partie de notre émission, France de François Ozon, dont l'émouvante interprète Paul Habir a reçu à Venise le prix du meilleur jeune acteur, le prétendu sulfureux Nocturama de Bertrand Bonello, et j'emploie ce qualificatif parce que Cannes n'a pas voulu le programmer, nous verrons pourquoi tout à l'heure, et enfin le très attendu film de Xavier Dolan, Juste à la fin du monde, qui a reçu le grand prix au Festival de Cannes. Et nous allons commencer avec France, de François Ozon. François Ozon est quelqu'un qui aime volontiers surprendre, sans remonter toute sa filmographie, qui est longue. Ses trois dernières réalisations, Dans la maison en 2012, Jeune et jolie en 2013, Une nouvelle amie en 2014, étaient des films en couleur, se déroulant dans la classe moyenne française contemporaine, et portant sur cette classe un regard non conventionnel qui cherchait à créer un certain malaise. Et voilà qu'avec France, il passe au noir et blanc. Il change d'époque, de style, il plante sa caméra dans l'Allemagne et la France de 1919 et s'inspire d'une pièce que Maurice Rostand avait écrite en 1930, L'homme que j'ai tué. De plus, son sujet, poignant, sort de sa thématique habituelle. Alors Marie-Jeanne, est-ce que tu as trouvé que François Ozon avait réussi sa mutation ou son changement de cap? Je ne sais pas très bien comment appeler ça.
Bon, alors, oui, parfaitement, et ceci pour plusieurs raisons. Alors, rapidement, quel est le propos? Tu l'as dit, nous sommes en 1919 dans une petite ville allemande. Anna, qui est incarnée par Paul Meyer, se rend tous les jours sur la tombe de son fiancé Franz, qui est mort sur le front en France. Elle remarque un jour des roses qu'elle n'avait pas posées et finit par découvrir Adrien, incarné par Pierre Ninet, dont elle apprendra qu'il est français et qu'il est venu se recueillir sur la tombe de son ami allemand. Anna l'attire chez les parents de son fiancé, mais évidemment cette présence, à la suite de la défaite allemande, va provoquer des réactions très passionnelles dans la ville. Alors j'ai aimé ce film, oui, pour plusieurs raisons. D'abord, pour les thèmes traités. Contrairement à la pièce et à l'adaptation qu'en avait faite Lubitsch en 1930, Ozon a choisi de se placer du point de vue des Allemands. Mais il a voyagé à travers la frontière pour nous montrer la similitude des réactions de part et d'autre, d'ailleurs que ce soit celle des vaincus ou celle des vainqueurs. Et l'on sent, et c'est tout le talent d'Ozon, on sent palpable la présence de la bête immonde qui ronge encore aujourd'hui nos sociétés, qui est à l'origine de la montée du fascisme d'un Hitler, le nationalisme étriqué avec la haine de l'étranger et le repli sur soi. Que ce soit l'hymne allemand ou la Marseillaise, ces chants patriotiques qui d'ordinaire sont rassembleurs, eh bien, à les entendre, ça fait froid dans le dos, tant la hargne et la haine sont sous-jacentes chez ces soi-disant patriotes. Mais il y a aussi la fraternité entre ces deux peuples. L'art est très présent tout au long du film, la musique, Chopin, la littérature, Verlaine, la peinture, Manet. Et c'est vraiment le trait d'union entre ces deux pays. Et en ce sens, Ozon nous parle bien d'aujourd'hui.
Oui, bon d'accord, mais enfin, ces réminiscences historico-culturelles ne constituent pas quand même l'unique sujet de France.
Ah non, non, il n'y a pas que cela. Il n'y a pas que cela. Le mensonge, la culpabilité qu'il engendre sont également les thèmes forts du film. Alors, toute vérité est-elle bonne à dire? Le mensonge est parfois un hommage rendu à la vertu. Il peut être une marque de tact, de bienveillance à l'égard de celui qui le reçoit et peut permettre, comme dit Ozon d'ailleurs, d'apaiser les âmes. On le dit un mensonge pieux. Pourquoi dire la vérité aux parents de Franz qui, sur leurs vieux jours, ne demandent qu'à croire la version qui leur est présentée et qui les réconforte? Quel intérêt pourrait avoir pour eux de savoir exactement ce qu'il en est? D'ailleurs, Anna le comprend très bien, puisqu'elle leur écrit des lettres lénifiantes et qu'ils attendent d'ailleurs.
Alors bon, je pense que là on arrive vraiment à un sujet même du film. Comment est-ce qu'ils osent s'en prendre pour rendre compte de ce rapport complexe entre vérité et mensonge ?
Eh bien, par la mise en scène. Une mise en scène précise, rigoureuse, incisive, et qui donne à ce film une particulière densité et provoque une émotion qui ne lâche pas le spectateur. L'atmosphère de cet immédiat après-guerre est remarquablement rendue. Utilisation d'un noir et blanc légèrement sépia, très raffiné, alors que la couleur apparaît un peu diaphane au moment de vérité, de bonheur, ou lorsque la vie se fait plus légère ou imaginée. Alors, la construction m'a également paru séduisante. La fin ne se laisse pas deviner. Le film se dévoile peu à peu et entraîne le spectateur parfois sur des fausses pistes jusqu'à une fin qui distille très habilement ses interrogations.
Mais alors, je crois qu'on a également beaucoup parlé de l'interprétation de ce film.
Oui, l'interprétation est précise, sobre, élégante. Pierre Niney, qui a un jeu subtil, tout en retenue, qui laisse habilement percer le mystère. Dès le début, on sent qu'il ment. La langue allemande parlée, susurrée par lui, devient belle à entendre. Quant à Paul Haber, tu l'as dit, un visage magnifique où perce encore l'enfance, qui a un charme lumineux et qui est assurément la révélation de ce film.
Oui, eh ben écoute, pour reprendre ma question du début, mutation réussie pour François Ozon. Jean-Michel, est-ce ton avis, toi qui en général n'apprécies pas beaucoup les films d'Ozon ?
C'est vrai, mais j'ai cru pouvoir m'y intéresser au début. Parce que
ça commence bien, Jean-Michel.
Ce qui est formidable...
C'est terrible, ça va être terrible.
Ce qui est formidable, c'est la seule chose, c'est l'idée de départ. C'est-à-dire l'irruption de l'intime au sein de l'horreur de la guerre de 14. Et c'est la matière de L'homme que j'ai tué de Rostand et de Brocon Labaye de Lubitsch. D'accord ? Donc le début m'intrigue, mais rapidement je ne vois plus qu'un mélodrame au premier degré, curieusement glacé, et qui distille, pour moi, un profond ennui. Apothéose du mensonge, comme ça a été évoqué, la première partie articulée autour de la rencontre d'Adrien et d'Anna sur la tombe de Franz suscite cependant l'intérêt. Il y a le noir et blanc de la réalité, la couleur du mensonge, pourquoi pas ? Même si c'est un peu schématique. Mais finalement, le film trop soigné ne m'émeut pas du tout, car très artificiel et inauthentique, apprêté à m'y donner gravure de mode, reconstitution de la société post-traité de Versailles. Et dans la deuxième partie, quand Anna va à la recherche d'Adrien, la direction d'acteurs et leur comportement rend très difficile de croire à l'histoire. Et l'insertion pseudo-aristocratique d'Adrien est franchement ridicule. Même si Ozon arrive à bien nous manipuler avec les rebondissements du scénario, qu'a signalé Marie-Jeanne, je n'arrive pas à m'intéresser vraiment à cette histoire tordue.
Oui, bon,
cette histoire qui est quand même déjà écrite, qui a déjà été écrite.
Personnellement, moi, je me situe un petit peu entre Jean-Michel et Marie-Jeanne. Je voudrais savoir comment Françoise elle-même a réagi à ce film.
Moi, je me suis intéressée à l'histoire. Je me suis intéressée à l'histoire, mais aussi, et c'est tout à fait subjectif, j'ai beaucoup aimé que ce film soit parlé en allemand. Et quand j'entends Marie-Jeanne dire « la langue devient belle » quand elle est parlée, ça me fait bondir sur ma chaise et grimper au rideau, parce que pour moi, la langue allemande est une belle langue, la culture allemande est une belle langue, et une belle culture, et j'ai adoré que Franz soit écrit avec une faute d'orthographe, ce que personne d'entre vous n'a dû remarquer, j'imagine.
Non, non, oui, le T.
Ah, quand même. Oui, bon. Et que Franz s'écrit santé, mais que les santé. Français qui ne parlent pas très bien l'allemand, ouais. C'est une. Voilà. Ils peuvent mettre un T, et que Franz, ça veut dire le français. Franz, der Franzmann. Et moi, j'ai aimé cette idée que Adrien parle l'allemand et, mon Dieu, bien. Et que Paola Bea, elle parle le français et bien. Et j'ai aimé cet échange de langues dans la mesure où, aujourd'hui, l'allemand en France est une langue qui a été quasiment supprimée. Elle n'est plus, comme vous le savez, elle ne sera plus enseignée en première langue. Je reviens au film. Moi, j'ai beaucoup aimé le thème qu'avance François Ozon, à savoir que ce sont les pères, au sens large bien sûr, ce sont les pères qui envoient les fils à la guerre. Et que nous sommes à ce moment-là des infanticides et que ça ne date pas du tout de la guerre de 14. Ça, j'ai beaucoup aimé qu'il ose le dire avec une telle force. J'ai aussi aimé cette idée du mensonge qu'on trouve toujours chez François Ozon. Cette idée du mensonge où, en effet, Anna ne va pas dire à ses parents le secret d'Adrien, à savoir que c'est lui qui a tué Franz. Elle ne va pas le dire, elle va y être encouragée par le prêtre, par le curé. Et la question qui se pose, c'est y a-t-il un mensonge acceptable, un mensonge utile, un mensonge qui épargne
oui,
l'autre?
Oui, c'est une question intéressante pour départ le film.
C'est drôlement intéressant.
Un mensonge pieux.
C'est drôlement intéressant. Oui, mais je ne sais pas si c'est pieux, moi j'aime pas le mot pieux. Mais en tout cas, un mensonge qui puisse préserver l'autre, je ne sais pas, en tout cas, c'est intéressant.
Mais ça, c'est un thème typiquement d'Ozon. C'est ce que j'ai aimé dans le film, cette scène d'Ozon. Ce que je regrette, c'est que Ozon, ça ne ressemble pas à un film d'Ozon pour moi. Pour moi, Ozon d'habitude est beaucoup, beaucoup plus pervers et c'est vraiment le roi pour soulever les petits trucs et voir ce qu'il y a en dessous. Et là, il reste d'un classicisme et ça m'ennuie un peu bien que j'ai beaucoup aimé le film.
Mais écoutez, on reproche à Almodovar de ne pas faire de l'Almodovar dans son dernier film. Il faut quand même se renouveler, pourquoi pas? Enfin, je trouve que.
Mais il faut se renouveler en restant semblable à soi-même quand même.
Non, le mensonge et le secret, il y en a dans tous les films de François Ozon et là, on a accès à du mensonge et du secret.
Le style n'est pas le même. Oui. L'écriture est différente.
Bien sûr, mais pourquoi
moi,
pas.
Moi, j'ai bien aimé ce noir et blanc, ce côté classique que t'as pas aimé, je crois, Jean-Michel.
C'est pas ça,
moi, je
ne
me suis pas ennuyée. Moi, je ne suis pas ennuyée du tout.
Noir et blanc, vérité, couleur mensonge.
C'est pas le meilleur.
C'est schématique.
Oui, je suis d'accord, c'est pas le meilleur. Mais le noir et blanc était...
Non, c'est pas toujours vérité, mensonge. C'est la couleur apparaît aussi à des moments
de bonheur
entre Paula et France.
C'est des procédés.
Ça, c'est un peu compliqué. C'est un peu conventionnel quand même, Marie-Jeanne.
Oui, bon, c'est pas l'essentiel du film.
C'est pas l'essentiel du film. Globalement, j'ai beaucoup aimé ce film.
C'est peut-être un
bémol. En particulier, j'aimais cette histoire de double, qui est passionnant. Et je trouve très intéressant l'idée de donner le nom d'un mort au film. Ça montre bien que c'est la mort qui est au centre du film.
Ah oui,
il y a une très belle scène, c'est celle où on voit tous ces vieux au café, il n'y a pas de jeunes. Et ça, c'est terrible.
Oui, l'après-guerre, ils sont tous morts au front.
Oui. Bon, voilà. Moi, j'ai bien aimé le film. Je ne suis pas ennuyée.
Bien. Merci, François.
Moi aussi. Même si j'ai quelques bémols à mettre, dans l'ensemble, c'est tout à fait favorable à ce film.
Bien,
on va passer à l'autre film du programme d'aujourd'hui qui nous ramène sur des horizons plus contemporains. Il s'agit de Nocturama, le nouveau film de Bertrand Bonello. Bon, les deux précédents films de Bertrand Bonello, La Polonie et Picciotto Saint-Laurent, avaient été très remarqués. On les avait vus à Cannes. Enfin, vraiment, c'était un film dont on parlait. Et on en parlait sur cette antenne. Par contre, son dernier film, Nocturama, a connu des débuts beaucoup plus tourmentés. Il a été refusé à Cannes. Refus dont la cause aurait été due à son caractère jugé sulfureux, car son sujet, effectivement, n'est pas anodin. Nocturama raconte l'attentat commis par une poignée de jeunes gens issus de milieux différents et venant poser dans des lieux symboliques de Paris des bombes qui explosent simultanément. Bon, alors, s'agit-il d'une histoire inventée à partir de faits réellement arrivés? On peut avoir cette impression? Ben non. Bonello a écrit ce film il y a 6 ans, c'est-à-dire avant l'attentat sur Charlie Hebdo, et il l'a réalisé avant celui de Bataclan. Donc il n'y a vraiment pas de correspondance directe entre les événements et le film. Alors François, est-ce que selon toi, il s'agit d'une sorte d'intuition anticipatrice de l'auteur ou de toute autre chose?
Moi, je sais pas, mais moi, je pense que les mots jeunes, attentat, bombe, ça fait résonance aujourd'hui avec les attentats islamiques qui frappent la France, c'est sûr. Mais il ne s'agit pas, en tout cas, c'est ce qui me semble, il ne s'agit pas d'une intuition anticipatrice. Les jeunes que Bonello met en scène ne sont fédérés par aucune idéologie, ni slogan, ni mots d'ordre. Ils ne font appel à aucun dieu vengeur. Ils n'ont pas de maître à penser. Ils veulent détruire. Ils apparaissent plutôt comme une génération qu'on pourrait dire désabusée, qui ne revendique rien. Et d'ailleurs, Bonello n'explique rien non plus. Il montre et il se tait. Et nous, spectateurs, eh bien, nous sommes envahis par un malaise profond face à une menace sourde, non identifiable. C'est un peu comme un cauchemar, je trouve. Et pourtant, à mes yeux, c'est un film fascinant.
Pourquoi fascinant?
Parce que c'est du grand cinéma. Parce que c'est Bonello, qui est un auteur majeur. Bonello, dans tout ce qu'il filme, a pas l'air d'accord, mais Bonello, tout ce qu'il filme, c'est inattendu dès les premières images, dès les premiers plans. Le film commence d'abord le jour J, sans aucune explication. On se retrouve enfermé dans le dédale du métro parisien. Là évolue une poignée de jeunes, ils sont blancs, noirs, maghrébins, venant de milieux très différents. Ils semblent d'ailleurs ne pas se connaître au départ, on les voit se déplacer rapidement, préoccupés. En général, ils sont seuls, parfois ils se croisent. Ils paraissent suivre un plan, recevoir des instructions sur leur téléphone portable, et on comprend finalement qu'ils préparent un attentat pour le soir même dans Paris. Et dans toute cette première partie du film, les mots sont excessivement rares. On assiste à une sorte de chorégraphie silencieuse, soutenue par des vagues de musique synthétique. Moi, j'ai trouvé ça complètement irréel. Et on aura 19h, il y a des bombes qui explosent dans 4 endroits stratégiques de la capitale. Et on n'en aura que quelques images fulgurantes, brèves, parce que, semble-t-il, ce n'est pas là l'essentiel du film.
Alors, pour toi, c'est quoi l'essentiel? Que veut dire Bonello dans ce film?
Bonello dit avoir voulu raconter, alors là je cite, avoir voulu raconter une histoire contemporaine qui montrerait l'état de dégoût et de perdition de la jeunesse. Et il ajoute, notre monde est au bord de l'autodestruction. Bon, voilà, dans la seconde partie du film, qui est très lente, la caméra va tourner sans fin autour du groupe des jeunes gens qui sont retranchés dans un grand magasin à Paris, où ils se cachent jusqu'au petit matin. Et alors que dans la première partie du film, une caméra nerveuse suivait les personnages toujours en marche, montant, dévalant des escaliers, s'engouffrant dans les couloirs sans fin, dans la seconde partie, la caméra va se calmer. Elle va observer les reclus, elle va même essayer de les écouter pour en savoir plus, mais en vain. Alors, ce grand magasin, de nuit, désert, c'est un lieu de cinéma fabuleux. C'est une bulle, c'est un lieu clos, sans fenêtre, complètement coupé des bruits extérieurs. C'est aussi le monde du luxe. C'est une métaphore de notre société qui est justement celle que les jeunes gens veulent faire sauter. Et Bonello nous les montre à la fois dans l'angoisse folle d'être découvert et pris par le vertige de la consommation sans limite. Vêtements de marque, maquillage, bijoux, jouets, alimentation et alcool hors de prix, tout leur est offert l'espace de quelques heures. Et ils se perdent. Ils se perdent dans les rayons, à la fois séduits, terrifiés, fragiles, perdus, à tous les sens du terme.
Oui, perdu. Tu dis jeunesse perdue. Est-ce qu'on pourrait dire à ce moment-là que le film essaie de susciter une forme d'empathie pour ces jeunes?
Ah, c'est une question. C'est une question. Bonello semble, dans ce film, nous interroger. Il semble interroger notre société. Que faisons-nous face à ces jeunes? Et la question prend tout son sens dans la stupéfiante dernière séquence, à savoir l'arrivée du GIGN, dans les lueurs blafardes de l'aube. Les hommes, casqués, armés jusqu'aux dents, silencieux. Alors, comment interpréter la fin choisie par Bonello? On peut peut-être en discuter. Voilà.
Oui, bah, de manière générale, comment interpréter tout ce film? Enfin, je vois que tu nous relances la balle en posant la question à propos du sujet du film. Marie-Jeanne, alors est-ce que toi aussi ce Nocturama te laisse un peu dans la nuit obscure que son titre annonce?
Écoute, je suis d'accord avec Françoise en disant qu'il y a de belles scènes, de belles images bien léchées. C'est du Bonello, je suis d'accord.
C'est construit.
Oui, non, mais construit, léché, bien, beau, etc. comme il fait d'habitude. Mais, d'abord, on ne peut pas voir ce film en faisant abstraction de ce qui s'est passé après. C'est pas possible. Je pensais notamment en le voyant aux parents des victimes qui voient ce film. Enfin, c'est je dirais presque en parodiant Jean-Michel, oui, mais c'est une très mauvaise action parce que ces jeunes gens paraissent presque sympathiques. Ensuite, certes, c'est une œuvre cinématographique, mais je ne comprends pas très bien le pourquoi de l'action de ces jeunes. Ce nihilisme latin me paraît absurde, sans fondement, et je dois dire que la vacuité de leur démarche est extrêmement gênante. Enfin, parce que ce film est long, 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 et je m'y suis terriblement ennuyé. Voilà.
Oui, la vacuité. Bon, je crois que ça, c'est un problème sur les films.
C'est voulu, mais
il a dit lui-même, d'ailleurs.
C'est voulu. C'est son choix. On peut le parler, mais c'est son choix.
Pour moi, c'est le côté politique du film. C'est pour Bonello, il le dit dans... Enfin, France le rappelle, il le dit dans le film. Cela devait arriver. Et c'est une espèce de pour lui, le monde est en état d'implosion sur lui-même, sans qu'on ait besoin de code extérieur.
Je ne cherche pas à expliquer. Hein, c'est pas des jeunes
pas
qui sont fédérés.
Tout le monde pose des bombes. Écoutez, excusez-moi, mais enfin... Bon.
Jean-Michel, oui. Je croyais que tu t'agitais beaucoup sur ta chaise depuis
non,
un petit moment.
Non, je ne m'agite pas, mais c'est, enfin, pour moi, l'affaire est entendue. Bon, Bonello, c'est un de mes réalisateurs préférés parmi les réalisateurs actuels. Mais là, il nous propose avec Nocturama un film désespéré comme la jeunesse qu'il décrit, une jeunesse dont le mot d'ordre serait le cri de ralliement franquiste « Viva la muerte », c'est-à-dire « Vive la mort ».
Même pas.
Mais oui.
Ils n'ont aucun mot d'ordre.
Un film hermétique, ennuyeux et obscur dans son premier tiers, qui décrit les allées et venues dans Paris dans le métro d'une bande de jeunes conspirateurs dont on ne sait pas encore ce qu'ils préparent, mais dont on se doute en observant leur visage sans joie, que ce sera infiniment moins drôle que dans les mystérieux complices des films de Jacques Rivette.
Non, il n'y a pas de comparaison.
Ouais. Un film terrifiant et cauchemardesque pendant son second tiers, au cours duquel ces jeunes dévoyés, désespérés et dépersonnalisés vont multiplier les actes de destruction de la société. Et enfin, un film complaisant et esthétisant dans son troisième tiers, lorsque cette bande décérébrée se réfugie de nuit dans un temple de la société de consommation qui les provoque et les engloutira. On ne peut pas parler à propos de ce film de thriller, car on sait très bien comment ça va se finir, ni de message politique ou religieux, comme l'a dit Françoise, car aucune élaboration, aucun débat. Les jeunes protagonistes sont des automates issus de toutes les couches de la société qui ne suscitent que répulsion et horreur, pas du tout d'empathie chez moi en tout cas. Et ce dynamitage de la société par la jeunesse n'est pas neuf, et son insertion sociale était autrement préoccupante à l'époque où des brigades rouges italiennes ou la fraction
je crois qu'il ne faut pas comparer ce film
aucun rapport
à la bande de
Baudelaire. Avec les brigades rouges ou bien les révoltes, il n'y a aucun rapport.
Je crois que l'idée de Bonello est détachée de la réalité, de l'histoire.
C'est désabusé.
On est dans une fable. Comme dirait François, c'est une fable.
On peut dire que c'est une fable.
Assez terrifiante.
C'est menaçante et nihiliste.
Une fable sans intérêt.
Bon, mais ce film, pour moi, et on l'a déjà dit avant, est une mauvaise action.
Non,
je ne vous rejoins pas. C'est pas une mauvaise action. On peut ne pas adhérer au film, mais je pense que cette idée que la société est sur le point d'imploser est intéressante à traiter en images, et que Bonello arrive par le talent, par son talent personnel, par des images, à exprimer ce malaise profond qui fait qu'on sort du film, on ne sait plus comment on s'appelle.
Oui, mais ce malaise peut s'exprimer en se tuant, mais en posant des bombes, je suis désolée.
Enfin, mais c'est même pas le thème de poser des bombes.
Mais il ne s'agit pas d'accepter de poser des bombes, c'est pas l'idée. On ne les défend pas. Mais si moi j'ai parlé d'empathie, c'est parce qu'un certain nombre de journaux ont soulevé la question et l'ont posé à Bonello. Y a-t-il de l'empathie? Moi, j'ai une vraie question.
Moi, je ne pense pas du tout.
Je ne
pense pas que le but soit de provoquer de l'empathie.
Ils sont sympathiques, ces jeunes, finalement.
Non, pas du tout.
Si, à certains moments, ils paraissent plutôt sympathiques.
Aucun d'entre eux est
gentil, plutôt.
Écoutez, la dernière image où le jeune Yacine, le petit maghrébin, sur le point d'être exécuté, dit aidez-moi, à qui c'est agressif. Puis à la fin, au bout d'avoir. Il dit 4 fois aidez-moi, puis il dit aide-moi. Et je crois que là, il ne s'agit pas d'éprouver de l'empathie, mais d'essayer de voir ce qui se passe chez un tout jeune homme qui va dire ces mots-là. Moi, ça m'interroge. Oui. Je ne me contente pas de les jeter en disant « vous êtes tous des nuls ». Ce n'est pas vrai.
Oui, je pense que c'est un film très mystérieux. Moi, je n'appellerais pas fable, justement, parce qu'une fable a une morale. Or là, pour moi, il n'y a pas de morale.
Non, c'est du nihilisme.
C'est plutôt un ressenti.
Oui, un nihilisme latin.
C'est plutôt un ressenti d'artiste.
Oui, mais très gratuit. Très gratuit.
Absolument.
Et très complaisant.
Non. Ouais. Pourquoi gratuit? Parce que moi, je ne comprends pas le terme.
C'est gratuit. Ça ne touche pas. Ça ne peut pas toucher. Moi, ça me laisse de bronze du début.
Mais toi, oui, mais Bonello, ça ne l'a pas laissé de bronze. Or, Bonello, ce n'est pas n'importe qui.
Non, peut-être, mais là, c'est sans. Je trouve ça totalement sans intérêt.
Sans intérêt d'avoir fait un film sur un sujet comme ça.
Oui. Mais là, je crois que.
Et de l'avoir traité comme ça.
Oui.
Non. Et de l'avoir traité.
Surtout dans le contexte
actuel. On
n'a pas
le temps d'en parler, parce qu'on a déjà atteint le temps consacré à ce film. Mais moi, je trouve que cinématographiquement, c'est admirable. On en reparlera dans l'intimité.
Je ne souscris pas.
On en parlera après.
On reparlera dans l'intimité. On va passer au film suivant, qui est donc juste la fin du monde.
Oui, il s'agit toujours de fin du monde.
Après de Nocturama, la fin du monde, je crois qu'on est très proche finalement. On va parler de titre.
Absolument.
On va reprendre donc avec ce film, qui est bien sûr le plus attendu de la rentrée, juste la fin du monde, du jeune Canadien Xavier Dolan. Il a à peine 27 ans. Et on a déjà tellement parlé de lui qu'on peut se demander comment il tiendra le rythme. Parce que c'est long, une carrière de cinéaste. Surtout commencer si tôt. Il a reçu à Cannes le grand prix du festival pour ce film il y a 2 ans. Il a obtenu le prix du jury pour Mummy. Oui. Mais c'est vrai qu'il est assez extraordinaire, cet encore jeune homme, qui semble né avec une caméra greffée au corps et qui non seulement réalise un film presque tous les ans, mais de plus ne se répète jamais et réalise à chaque fois un film différent. Alors, Jean-Michel, après J'ai tué ma mère en 2009, Les amours imaginaires en 2010, Lawrence Anyways en 2012 et Mommy en 2014, est-ce que Juste la fin du monde confirme à tes yeux tout le bien que l'on pensait de Xavier Dolan?
Oui, alors il y a aussi Tom à la ferme, qu'il ne faudrait pas oublier.
Il est antérieur encore, j'ai cité que... Oui.
Le... C'est avant Mommy.
Avant Mommy, c'est juste avant Mommy. Oui, ceci étant, effectivement, c'est un jeune réalisateur de 27 ans. Il a eu aussi, il faut le citer, surtout à cette antenne, que... Avec Juste la fin du monde, Dolan a eu le prix du jury œcuménique. Et je pense que c'est extrêmement important de le rappeler, parce que c'est surprenant, mais en même temps, on va peut-être le comprendre.
Bon, le film... Tu m'expliqueras.
Oui, le film est adapté de la pièce éponyme de Jean-Luc Lagarce en 1990, alors que celui-ci se savait atteint du sida et devait en mourir. Le film raconte la tentative désespérée de Louis, un jeune auteur de théâtre de 34 ans, qui, après être resté éloigné 12 ans de sa famille, décide de revenir dans son village pour annoncer aux siens sa mère Martine, son frère cadet Antoine et l'épouse de celui-ci Catherine, sa petite sœur Suzanne, d'annoncer sa mort qu'il considère comme prochaine et irrémédiable.
Alors, est-ce qu'il ne s'agit pas là, dans son désespoir et sa quête de protection familiale, d'une sorte de détournement de la parabole du fils prodigue ?
Le projet du dramaturge peut effectivement évoquer un tel détournement, mais ici, il faut remarquer que le père est déjà mort, et c'est ce fils, qui n'est pas l'aîné, qui est lui-même voué à la mort. En fait, Xavier Dolan conserve dans cette transposition cinématographique des accents raciniens de la tragédie de Jean-Luc Lagarce, avec l'unité de lieu de la maison familiale, l'unité de temps d'une brève journée, enfin l'unité d'action d'une intention empêchée. Cette intention empêchée, c'est l'annonce impossible pour lui de la fin du monde, c'est-à-dire de la fin de sa propre présence au monde. La famille est en effet le terreau éternel des non-dits et des secrets, et dès les premiers échanges, il est clair qu'existe un fossé entre ceux qui savent, c'est-à-dire Louis, si doux et si vulnérable, à qui Gaspard Huliel prête sa réserve et sa sensibilité, et sa belle-sœur Catherine, une Marion Cotillard absolument bouleversante, qui se voit pour la première fois et se comprennent. Et, à l'opposé, ceux qui, murés chacun dans ses émotions, Antoine, Suzanne, Martine, ne veulent pas savoir et se réfugient dans un déni agressif et ou angoissé, qu'alimente le sentiment de culpabilité ou le désir d'auto-justification. Ainsi assiste-t-on au drame intime d'un sujet aussi incapable de communiquer avec ses proches qu'il leur est impossible d'entendre ce qu'il a à leur dire, de sorte que c'est là la brève et foudroyante chronique d'une mort inannonçable.
Comment, alors, dès lors, cette impasse affective peut-elle permettre néanmoins le déroulement d'une histoire? Et comment la mise en scène y contribue-t-elle?
Le récit ramassé sur quelques heures avant et après le déjeuner est un objet fermé, rigoureusement construit, de telle sorte qu'aux séquences collectives avec les cinq personnages s'ajoutent des séquences où chacun d'eux se retrouve seul avec Louis et que la scène inaugurale comme la scène finale est un face-à-face entre Louis et Catherine. Dans ce huis clos intense et désespéré, parfois hystérique, mais souvent drôle et toujours authentique, les névroses familiales explosent et personne ne trouvera les mots qu'il faudrait pour sortir de sa solitude affective. Louis attend en vain le moment où il pourrait annoncer son terrible destin et il repartira en emportant à jamais son secret.
Ne décris-tu pas là, sans le dire, un film peut-être brillant mais qui se situe peut-être dans le genre du théâtre filmé?
Je ne crois pas du tout. Certes, Dolan, même s'il s'éloigne parfois délibérément de la pièce de Lagarce, reste fidèle au pessimisme profond et douloureux qui en émane. Mais c'est l'apothéose du cinématographe qui nous subjugue, qui me subjugue. Le découpage est basé sur les gros plans du visage d'acteurs généreux et au sommet de leur art, où l'indicible de ces personnages névrosés, l'extravagante Nathalie Baye outrageusement maquillée, le colérique et ordurier Vincent Cassel, l'éperdu et émouvante Léa Seydoux, s'exprime avec passion dans les échanges de regards et cette chorégraphie musicale d'images évoque pour moi parfois Dreyer ou Bergman. Directeur d'acteurs et metteur en scène, Xavier Dolan démontre à nouveau dans ce film magnifique sa maîtrise du mélodrame.
Oui, pour toi, Xavier Dolan, l'éblouissant, continue d'être Xavier Dolan, magnifique. Hein.
Oui,
François,
absolument.
Est-ce que tu partages cet enthousiasme?
Moi, j'avais envie que le film s'arrête.
Moi aussi.
J'en suis sortie sonnée, mais vraiment sonnée, comme si j'avais écouté un concert où les instruments ne jouaient que dans les notes super aiguës de leur partition. J'ai trouvé ça... Moi, c'est un film strident qui m'a presque endommagé le tympan. Non, pas du tout, mais j'aime bien Xavier Dolan. J'ai beaucoup aimé Mommy, mais alors là, j'avais envie que ça s'arrête. Mais que ça s'arrête. Quand est-ce qu'on va sortir? Ensuite, ce qui m'a frappé en partant, en sortant, je me suis dit, il n'y a pas d'évolution entre le début et la fin du film. C'est tous les mêmes, ils tournent en rond. Et ce que j'ai beaucoup aimé, j'ai été très sensible au personnage, en effet, de Louis, joué par Gaspard Ulliel. Avec cette, il m'a touché profondément, sa douceur, sa tristesse, il existe. Très, très touché par le personnage. Voilà, en gros.
Oui, ben moi, je partage pas tout à fait ça, mais la parole à Marie-Jeanne d'abord.
Moi, je partage tout à fait l'enthousiasme de Jean-Michel. Je trouve que ce film est magnifique. Certes, c'est vrai, il est strident, mais il n'est pas que strident. Il y a beaucoup de violence, notamment chez Antoine, le frère aîné, qui est un psychopathe à la fin, enfin, d'une jalousie morbide à l'égard de son frère, et qui le massacre, presque physiquement d'ailleurs, à un moment donné, on le voit, le point tendu. Mais... il y a aussi beaucoup de subtilité, de silence. C'est un film que j'ai trouvé finalement plus dépouillé que les autres, parce que ces gros plans sur ce visage magnifique de Gaspard Ulliel, qui dit tant de choses avec ses yeux et avec ses silences qui sont beaucoup plus bavards que des paroles. Il y a un mélange des deux. Il n'y a pas que la violence et les paroles très, très violentes, effectivement.
Ordurière.
Oui, ordurière.
Ça n'a rien à voir avec
oui,
racine,
mais oui, moi, mais ordurière, je suis d'accord, mais alors...
Je suis d'accord pour lui, que je trouve extraordinaire, mais à mon avis, c'est lui qui tient le film. Les autres sont complètement inintéressants.
Ah non.
Je trouve que encore les... ils sont d'un creux, et d'un verbeux, et d'un théâtral.
Ah ben, pas du tout, alors. Marion Cotillard, que je n'aime pas spécialement d'habitude, et qui m'agace profondément, je l'ai trouvé remarquable.
Entièrement d'accord.
De finesse, de retenue.
Mais allez, d'un bout à l'autre, ces personnages sont identiques, sont les mêmes. Ils n'évoluent pas. Il n'y a pas la moindre évolution d'un à l'autre.
Il n'y a pas d'évolution.
Ils ne sont rien dans cette film.
Parce que les névroses familiales sont fixes et fixées. Donc ils n'évoluent pas, effectivement.
Oui, mais.
Non, c'est le jeu des acteurs qui m'a
dépeint. Comme disait François, j'ai eu l'impression que le film, il y avait la première scène et que passait 1h35 à ne pas bouger. Parce que la situation est exactement la même.
C'est
à la
un
fin.
Huis clos, oui, c'est un huis clos familial,
non,
effectivement.
Écoute, en général, comme une tragédie, c'est un huis clos, mais ça évolue. Là, il n'y a pas d'évolution.
Si, ça évolue, parce que tu crois toujours qu'il va le dire. Il y a le moment où il est prêt à le dire. Et puis finalement, il dit ce que sa mère veut, et il s'en sort comme ça. Et les dernières scènes, quand il part tout seul, mais c'est magnifique.
C'est magnifique. Indiciblement magnifique.
Je crois que pour moi, le film est annoncé en quelque sorte par la première phrase qu'il y a sur l'écran, quelque part, il y a quelques temps déjà. Oui. C'était un film rigoureusement impersonnel, sans identité, sans lieu, rien.
Quelque part, il y a quelques temps, parce que le sida n'a plus la même implication maintenant.
Bah oui, c'est ça. On sent que le temps a passé.
L'auteur s'en est expliqué.
On sent que le temps a passé. Hein. Oui. Ça fait 20 ans. C'est différent. Oui.
Mais c'est une tranche de vie à cette époque, et pourquoi pas
Ceci dit, malgré mon opinion très négative sur le film, j'admire Xavier Dolan. Parce que je trouve qu'il a réussi dans le même film à faire un film qui n'avance pas, un film, ce qui est interdit en principe, à faire que des gros plans, ce qui également complètement décommandé, qu'il ne faut pas faire, mais également à n'avoir
que... Il ne faut pas faire par rapport à quoi?
Dans le bon sens que je dis. J'admire beaucoup de savoir faire ça, parce qu'il va à l'encontre de beaucoup de théoriciens du cinéma.
Les théories sont faites pour être transgressées.
Ouais. Oui, exactement.
Mais quand on les transgresse, encore faut-il réussir.
La réussite est parfaite.
Non,
Je pense que les opinions générales sont très réservées sur ce film, quand même, dans l'ensemble.
Non, il y a de très bonnes critiques.
Il est globalement porté au pinacle.
Oui.
Non, c'est pas vrai. Regarde les notes des cahiers du cinéma. Sur les 10, il y en a 6 qui le démolissent pratiquement.
Oui, mais enfin, il n'y a pas que les cahiers du cinéma.
Mais c'est bien les films qui portent à polémique. C'est très bien. C'est des films à aller voir, justement.
Oui.
Oui, bon, on croit qu'on irait longtemps là-dessus, mais il faut s'arrêter pour passer au coup de cœur, le traditionnel coup de cœur que l'on va commencer par Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, tu voulais nous parler de Free State of Jones de Gary Gross.
Yes.
Voilà.
Je ne parle pas italien aujourd'hui. Bon, alors, Gary, Harry Wall, c'est le réalisateur de Hunger Games de 2012 et il n'avait pas réalisé de film depuis 4 ans. Alors avec Free State of Jones, il fait surgir un épisode un peu méconnu de la guerre de sécession américaine et en particulier cette figure de Newton Wright qui a réellement existé. Alors rapidement, le film se situe entre 1861 et 1865, la guerre civile fait rage, et un fermier blanc modeste dans le Mississippi déserte les rangs des confédérés, ulcéré par ce qu'il considère, dit-il, comme une guerre de riches, mais un combat de pauvres. Alors il prend la tête d'une bande de paysans, blancs, modestes aussi, et noirs en fuite, pour se battre contre les États confédérés. Ensemble, ils forment un régiment de rebelles indomptables qui ont la supériorité sur leurs adversaires plus nombreux et plus armés car ils connaissent parfaitement le terrain et notamment les marais où ils vont se réfugier. Alors, prenant des thèses égalitaristes avant l'heure, Newton Wright fonde le premier État d'hommes libres sur le territoire des trois États où noirs et blancs sont égaux. Alors, le propos, on le voit, est non seulement ambitieux mais courageux car d'une part, il entend glorifier les valeurs de civisme et d'humanisme dans une conjoncture où les valeurs, où ces valeurs sont singulièrement bousculées. Ensuite, parce que le propos est résolument politique, en prenant le parti de réhabiliter l'image de ce blanc, oublié de l'histoire d'ailleurs, considéré par certains comme un traître et un rebelle, on dirait aujourd'hui un terroriste. C'est donc un film important par le sujet traité, par le point de vue qu'il développe et par son engagement réel. Les images du marais et de la mangrove sont magnifiques et l'interprétation de Matthew McConaughey est magistral. Alors certes, le film est un peu coincé entre de grands films sur la ségrégation comme 12 Years a Slave, Django Unchained ou Lincoln, mais il n'a pas leur degré d'intensité et d'émotion. Et puis de plus, Ross se veut être très pédagogue et donc son film pêche par sa longueur. Mais c'est un film très attachant qui mérite vraiment qu'on s'y arrête.
Bien, merci Marie-Jeanne, c'est un film effectivement dont on a peu parlé, donc tu as bien fait d'en parler. Jean-Michel, toi tu nous venais parler d'un film Brooklyn Village.
Oui, un bijou absolument inattendu, enfin de moi. C'est un film américain d'un auteur que je ne connaissais pas mal, Ira Sachs, qui ne dure que 1h25. Et ce réalisateur qui est un gay revendiqué et juif, de surcroît, est une figure encore discrète, mais déjà très affirmée de la scène indépendante new-yorkaise. Comme Mike Lee, comme Jim Jarmusch, il développe une attention à ses personnages pour que nous puissions les comprendre jusque dans ses contradictions. Et dans Love is Strange, en 2014, il mettait en scène les déboires d'un couple de même sexe.
C'était magnifique. Magnifique.
Mais ici, de fait, je ne le connaissais pas. Ici, il s'agit d'une famille new-yorkaise, les Jardines, qui quitte un Manhattan trop cher et trop étroit pour emménager un peu plus loin à Brooklyn, dans une maison dont le père vient d'hériter. Le local commercial est occupé par la boutique de vêtements de Léonore, qui est une couturière d'origine chilienne, qui élève seule son fils Tony. Ce dernier a le même âge, c'est-à-dire 13 ans, que Jake, le fils des nouveaux arrivants, et les deux garçons deviennent vite inséparables. Mais le loyer de Léonore, issu d'un arrangement amical avec l'ancien propriétaire, est dérisoire pour ce quartier en pleine mutation, et les relations vont s'envenimer quand les Jardines, eux-mêmes en difficulté financière, lui proposent un nouveau bail revu à la hausse. Jake et Tony commencent alors une grève de la parole en guise de protestation contre la brouille des adultes. Ce film empreint d'une douceur et d'une finesse, d'une humanité surprenante à cette époque de violence, magnifie une très belle relation entre préadolescents sur un fond d'incontournable cruauté des rapports sociaux. Par petites touches et sans emphase, il évoque la manière de Renoir dans son approche du retentissement politique des problèmes du quotidien et illustre sa maxime dans la règle du jeu que chacun a ses raisons. C'est une œuvre profondément jubilatoire, optimiste et positive, et la performance des deux gamins est proprement stupéfiante.
Il a eu le prix à Deauville. Hein,
oui, il a eu le prix à Deauville.
Sundance.
Oui, bon, Françoise, à toi. Toi, tu voulais parler d'un film français, alors.
Franco-canadien qui s'appelle Le Fils de Jean, c'est le dernier film de Philippe Lioret. J'ai beaucoup aimé ce film, qui aborde le thème délicat de la paternité et de la filiation avec autant de pudeur que de justesse. Le jeu des acteurs est admirable, d'intelligence et de sensibilité. Pierre Deladochamps, il faut retenir son nom, hein, dans le rôle du fils Mathieu. Gabriel Arcan, qui est le frère de Denis Arcan, le réalisateur. Gabriel Arcand dans celui de Pierre, et l'un et l'autre parviennent à nous toucher au cœur, par la qualité de leur regard, par la force de leur silence. Marie-Thérèse Fortin, elle aussi, dans le rôle d'Angie, la femme de Pierre, est remarquable. En deux mots, Mathieu, la trentaine, vit à Paris, il n'a jamais su qui était son père, et un matin, à son bureau, il reçoit un coup de fil d'un correspondant étranger qui se présente comme étant l'ami de son père décédé tout récemment. Il aimerait connaître l'adresse postale de Mathieu pour lui faire parvenir un paquet que son père a laissé à son attention. « Oui, dit-il, son père est canadien. Dit-il, il a deux fils. » Mathieu, très ému, décide d'aller récupérer son paquet là-bas. Et surtout, il est impatient de découvrir cette nouvelle famille. Il saute dans un avion. Et tout va lui sembler très curieux. Il est accueilli à l'aéroport par Pierre, l'homme du téléphone. Un Pierre bourru, froid, peu aimable, qu'il conduit à l'hôtel. « Il est médecin, lui dit-il, comme son père. Ils aimaient bien aller pêcher ensemble, sur le lac. Et c'est là que son père s'est noyé. On n'a pas retrouvé le corps. » Pierre remet à Mathieu le fameux paquet, au contenu tout à fait incongru, c'est un tableau, le portrait d'un jeune garçon. À la demande insistante de Mathieu, Pierre lui fait rencontrer ses deux frères, mais en lui déconseillant formellement de leur révéler son identité, car dit-il, ici personne ne connaît ton existence de fils illégitime. Les deux frères d'ailleurs se révèlent frustres, violents, cupides. Mathieu, déconcerté, décide de rentrer en France. C'est là que le film bascule. Que Mathieu est invité à loger dans la famille de Pierre, que les regards et les silences vont tenter de remonter à la source de cette histoire. Et c'est alors que le tableau se met à parler, mais aussi un stéthoscope rouge et une casquette jaune. C'est un film lumineux qui vous habite longtemps après.
Merci Françoise pour ce film, sur ce texte sur le fils de Jean. Moi, il me reste une petite minute pour parler rapidement de Aquarius. C'est un film qui va sortir demain. C'est un film brésilien de Kleber Mendoza Filho, qu'on avait déjà remarqué en 2012 pour Les bruits de Recife. Aquarius se passe également à Recife. C'est à la fois un film de critique politique et de résistance individuelle, avec en tête de sa distribution un magnifique personnage, Clara, interprétée par une actrice tout aussi magnifique, Sonia Braga. Alors, Clara a la soixantaine, elle est journaliste, elle est ancienne critique musicale, elle habite Aquarius, qui est un mythique et vieil immeuble des années 40, et qui se trouve sur une avenue très huppée en bord de mer. C'est une situation privilégiée qui attire les convoitises d'un groupe immobilier qui veut racheter tous les appartements, et qui pour cela ne recule devant aucun moyen. Mais Clara refuse le sien, Clara résiste. Alors c'est un film de résistance. Clara résiste aux puissances de l'argent, Clara résiste non seulement, mais également au temps, à la vieillesse, au monde qui change, à sa propre famille, qui voudrait la mettre sur la touche de l'existence. Donc c'est un film qu'il faut à tout prix aller voir, parce que son seul tort est peut-être d'être un peu long, il fait 2h25, et si le scénario avait été un peu plus tendu, ça n'en aurait été que mieux. Mais enfin, il ne faut quand même pas hésiter à aller le voir. Voilà, je crois qu'il est venu le temps de nous quitter. Merci à Marie-Jeanne, à Françoise et à Jean-Michel qui ont animé cette émission. Merci à Arnaud qui en a assuré la réalisation technique et merci à tous ceux qui l'ont écouté et que nous invitons à nous rejoindre dans notre prochaine émission qui aura lieu le mardi 25 octobre de 13h15 à 14h.